Bien, bonjour. Nous commençons ce quatrième cours que j'ai intitulé « Le moine orthodoxe » pour vous montrer un aspect de JN qui ne nous étonnera pas, mais qui nous aidera peut-être à nous étonner d'autres aspects que nous verrons plus tard. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais revenir simplement sur la dernière fois. Je n'ai pas pu vous donner, si vous allez voir que les deux protagonistes de ce cours-ci vont être notre moine Jien et l'empereur retiré Gotoba Noin. Donc je vous donne le poème que je n'ai pas pu vous donner la dernière fois, qui est Jien et Gotoba, alors l'empereur retiré Gotoba, sont tous les deux réunis dans ce Hyakuninishu, vous savez, les recueils de 100 poèmes de 100 poèmes de 100 poètes. Et voici celui de l'empereur Gotoba, qui est assez curieux, justement, c'est pour ça que je vous le propose. Donc, Shitomo Oshi, Shitomo Urameshi, Ajikinaku, Yo Omo Yueni, Mono Omo Miwa. Alors, voici comment je vous l'ai traduit. Certains me sont chers, d'autres me sont odieux, parce que pénible m'est la pensée du monde, ainsi le suis-je à moi-même. Donc vous voyez que c'est une sorte de poème d'autocritique qui implique qui semble faire allusion aux activités politiques et partisanes de l'empereur. C'est intéressant que Teika, donc le compilateur de ce Hyakuninishu, l'ait choisi. Et je vous rappelle, parce que je n'ai pas eu le temps, j'ai passé très rapidement dessus la dernière fois, le poème de Jien qui est dans ce Hyakuninishu, qui est le seul, comme je vous l'ai dit, le seul poème dont la tonalité soit vraiment bouddhique. Je vous le redonne parce que vous allez voir qu'il va y avoir un écho dans le texte que nous allons lire aujourd'hui. Je vous rappelle ce poème, donc « Okenaku, ukiyo no tamini, oukana, wanyatatsu somani, sumizome no sode ». Donc, pour ne pas perdre de temps, je vous donne ici la traduction. Combien déplacé pour moi de protéger le peuple d'ici-bas, de la manche noire de mon habit de moine retiré du monde. Vous voyez comment. Wayatatsusoma, je vous l'ai dit, c'est une expression que nous allons retrouver tout à l'heure. Le bois, littéralement le bois que j'ai dressé, pas l'arbre que j'ai planté, mais le bois que j'ai dressé, s'il fait allusion au temple, bien sûr, c'est le temple du mont Hiei. Et vous voyez que c'est un poème de. Là, comme tout à l'heure, un poème de modestie. Enfin, plus il donne moins. Là aussi, c'est une sorte aussi. Il reflète une sorte de drame psychologique est un peu exagéré. Mais vous voyez que JN se déclare mal placé pour recevoir la confiance de tous ces gens et du peuple. N'est-ce pas ? Ukiyo no tami. Tami veut quand même dire le peuple. Il y a une dimension politique qui va bien s'accorder avec ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, il considère que son habit de moine, son habit littéralement teint de noir, son habit monastique, la manche de son habit monastique n'est peut-être pas digne de protéger le peuple comme il le voudrait. Évidemment, l'allusion à Saicho, je vous en ai parlé la dernière fois, est tout à fait... clair. Donc, après avoir parcouru au galop la vie de Jien la dernière fois, je voudrais aujourd'hui, avant d'aborder prochainement une facette plus déroutante de sa pensée, montrer à la fois la profondeur de son attachement à l'école Tendai, dont il fut l'une des autorités suprêmes, je vous le rappelle, et d'ailleurs nous avons ce poème qui est très très intéressant dans le recueil de le Shugyokushu, le recueil de ses poèmes. Il est très intéressant parce que il me semble qu'on ne l'a pas tout à fait compris comme il se devrait. Vous voyez que, enfin bon, vous avez, avec les parenthèses que je vous ai données, vous comprendrez tout de suite le jeu de mots. Yo nanakani Yamacho Yamawa, Okaredo, Yamatoa ou Yamatoa, Hienomi Yamaozo Iyu. Alors, la plupart des gens le comprennent comme dans ce monde, n'est-ce pas ? Certes, en ce monde, les montagnes, les vraies, Yamacho Yama, les montagnes, les vraies, sont nombreuses, mais pour ce qui est de la montagne, comme je vous donne la traduction, l'interprétation normale, pour ce qui est de la montagne, eh bien, c'est l'auguste mont Hiei, n'est-ce pas ? Bon, donc, il y a beaucoup de montagnes. Il y a beaucoup de montagnes, mais quand même, la vraie montagne, c'est le mont Hiei, c'est-à-dire le centre de l'école Tendai. Mais, comme vous le voyez, si vous lisez, tout dépend. Yononaka, c'est vrai que Yononaka veut dire le monde, mais le monde restreint, qui très souvent, il désigne le Japon. Seulement, je vous rappelle encore une fois que ces poèmes ne sont pas ponctués et que l'utilisation des kanji est parfaitement... peut nous aider à comprendre quelque chose, mais ce sont les kanji que l'on donne sont mis par les éditeurs, les âges successifs, et la plupart du temps, on n'a aucune idée de la graphie originale de l'auteur, et même lorsqu'on a la graphie originale de l'auteur, lorsque l'auteur recopie ses poèmes, souvent il donne des graphies différentes. Alors que on voit très bien qu'entre le Kaminoku et le Shimonoku, n'est-ce pas, vous avez une symétrie, Yononaka ni Yamato Toa, n'est-ce pas ? Et Yononaka, donc, est à prendre au sens vaste, dans ce monde, en ce bas monde, non seulement au Japon, mais en Chine aussi, il y a des montagnes, mais il y a de nombreuses montagnes, mais pour ce qui est du Japon, Yamatoa, c'est le mont Hiei. Donc vous voyez que ce n'est pas seulement du chauvinisme montagnard restreint à la région de Heiankyo, de Kyoto, mais il dit que le mont Hiei est le centre du Japon, est la montagne du Japon. Encore une fois, une dimension politique dont il faut tenir compte et que l'on va voir illustré aujourd'hui. Alors donc, je voudrais vous montrer aujourd'hui une pièce littéraire, une expression du génie littéraire de Jien, malgré ce que l'on dit. Je reviendrai peut-être un jour sur les critiques qu'on lui fait, mais nous n'avons pas le temps aujourd'hui. Donc, de ce qu'il faut appeler le talent, au moins littéraire, de Jien, en vous présentant la pièce peut-être, je ne dirais pas la plus singulière, enfin, l'une des plus singulières de son recueil, puisqu'il s'agit d'un poème long, n'est-ce pas ? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails. Ce poème long est appelé tanka, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire poème court. Mais c'est une référence, c'est une allusion au Kokinshu, où vous avez des poèmes donc, qui sont nettement plus longs que le waka traditionnel, mais qui, dans les longueurs relatives, peuvent être considérés comme courts. Alors, je ne vais pas m'embarquer dans ces paradoxes de longueur. Disons que pour nous, ça représente parfaitement un chouka, n'est-ce pas ? Chouka, qu'on prononce parfois chouga ou bien nagauta. Ce sont des poèmes qui ne sont pas limités aux cinq vers du waka, mais qui sont d'une longueur variable et qui tombent rapidement en désuétude. Nous en avons dans le Manyoshu, nous en avons un peu dans le Kokinshu. Et puis, après, de loin en loin, nous en avions vu un exemple dans le Senjusho, vous vous en souvenez, l'année dernière, dans un poème attribué, un poème long attribué à la poétesse Issei. Et il y aura une sorte de renaissance du chouka, d'une certaine façon, à l'époque Meiji, puisque le chouka est caractérisé par une alternance 5 du mètre, donc du nombre de syllabes, 5-7, 5-7, 5-7. Au lieu de 5-7, 5-7, vous avez 5-7, 5-7, 5-7 pendant un nombre indéterminé de vers. Et puis les deux derniers vers, c'est 2 fois 7. Deux fois sept vers. Et à chaque chouka, il faut en principe un hanka, c'est-à-dire un poème de réponse un répond, pourrais-je dire, qui est souvent fait par un autre poème, par un autre poète. Je vous le donnerai tout à l'heure. Donc c'est un genre assez exceptionnel. Dans la poésie de J.N., c'est tout à fait exceptionnel. Il se trouve que c'est le seul même de cette importance dans tout son recueil, qui fait quand même 6000 vers, je vous le rappelle. Et donc nous allons le voir aujourd'hui, et il faut évidemment s'interroger sur la raison de ce poème. Il fait 105 vers, n'est-ce pas, si j'ai bien compté. Et alors évidemment, il est classé dans le Shūgyōkushū. Je vous rappelle que le Shūgyōkushū, donc le recueil des poèmes de J.N., a été fait 120 ans plus tard, à peu près, après sa mort, par son disciple indirect, Son-en. Donc il se peut que les annotations marginales, les titres, sous-titres, ça peuvent être l'œuvre de Son-en. C'est difficile d'en juger. Mais une chose est sûre, en tout cas, dans le recueil, ce poème est qualifié de Hōmonka. Hōmonka, vous le savez déjà, ceux qui ont écouté les cours précédents, c'est en principe, Hōmonka littéralement, poème... poème portant sur le texte ou un texte de la loi, c'est en principe une variété, une variante, un sous-genre du shakkyōka. Shakkyōka, dont je vous ai déjà souvent, trop souvent parlé pour que je vous redonne les termes ici, shakkyōka, ce sont les poèmes bouddhiques, sur la doctrine de Shakyamuni, les poèmes bouddhiques. Les hōmonka sont plus spécifiques, ce sont des poèmes bouddhiques portant sur des citations scripturaires. C'est-à-dire que la plupart des poèmes bouddhiques que nous voyons ici sont des hōmonka, n'est-ce pas, qui interprètent la lettre d'un sutra, en principe. Or, ce poème est présenté ici comme un hōmonka, mais ce n'est pas du tout une explication du sutra du lotus, puisque c'est un poème, vous le verrez, qui décrit la situation religieuse de son époque. Alors, est-ce un poème ? Pourquoi Hōmonka, n'est-ce pas ? C'est vrai que vous verrez que ce qui est à l'arrière-plan, c'est la renaissance du Sutra du Lotus. Alors, c'est peut-être en ce sens qu'il faut le comprendre, mais c'est un peu, bizarre comme appellation. En revanche, l'autre appellation qui est donnée après le titre Hōmonka, n'est-ce pas ? Jukai Oyosete, un poème qui apporte un jukai. Jukai, c'est un terme très riche de l'histoire littéraire poétique japonaise, qui a été bien étudié maintenant par notre jeune collègue, bientôt j'espère, Julien Faury, n'est-ce pas ? Jukai, on peut vraiment ici le traduire par le poème, alors normalement ça veut dire qui exprime les sentiments, qui exprime le cœur, mais c'est aussi le ressentiment, c'est-à-dire un poème d'insatisfaction, et vous allez voir qu'il y avait, enfin pour J.N., des raisons d'insatisfaction. Alors on connaît, mon Dieu, il faut se presser, nous connaissons la date de ce poème de façon assez précise parce qu'il est, il est cité dans le Meigetsuki, qui est les notes journalières de TEK, qui est d'ailleurs étudié en ce moment par notre collègue Michel Villard-Baron. Donc nous savons que ce poème est daté de 1205. 1205, vous en souvenez peut-être, nous sommes vraiment dans une époque charnière. D'abord, 1205, c'est l'année où le Shinkokinshu, le recueil, l'anthologie officielle qui se veut la reviviscence, la remise au goût du jour, et le même texte fondateur que le Kokinshu de 905. Trois siècles plus tard, sous l'égide de l'empereur Gotoba. C'est aussi le moment où, deux ans plus tard, le même empereur Gotoba va faire ce fameux Saisho Shitennoji dont je vous ai parlé, cette espèce de résidence, de temple-résidence qui est sur le terrain du Shōnen-in. C'est le moment où l'on voit que l'empereur Gotoba entend l'empereur retiré, je vous le rappelle, mais qui ne se voudrait pas si retiré que ça, conçoit de grands projets. Donc, Alors, pour ce qui est, oui, je ne vais pas. Je suis quand même obligé de vous dire que je vous ai peut-être déjà parlé de ce recueil qui s'appelle Ryojin Kisho, n'est-ce pas ? Littéralement, le texte, le dossier secret, si je puis dire, voire le commentaire, mais enfin, c'est vrai qu'il y a une partie commentaire, le commentaire secret de la poussière sur les poutres, n'est-ce pas ? Qui veut dire, donc, vous savez, c'est la poussière qui danse sur les poutres, c'est une sorte de synonyme de la musique. Un recueil très, très curieux de l'époque, de cette époque-là, un peu antérieure, qui est compilé autour de l'empereur Go-Shirakawa, donc, qui est aussi un autre empereur retiré et qui est l'empereur qui a vu la fin de Heian, n'est-ce pas, en 1192. Et dans ce Ryojin Hisho, vous avez des Choka aussi, mais ils ne correspondent, ce qui est considéré comme Choka, mais ils ne correspondent pas du tout au modèle que nous avons aujourd'hui. Alors, il faudrait que nous en. Je vais vous donner, disons, plan par plan, l'avance de ce poème, et puis si nous avons le temps, à la fin, je vous en ferai la lecture complète pour que vous voyez mieux les articulations. Mais. Alors, vous avez le texte sous les yeux, je vous en donne la traduction parce que nous ne pouvons pas lire les 105 vers, n'est-ce pas, vous les lirez. Alors, depuis que le clair de lune, n'est-ce pas, le Tsuki no Kage, je n'insiste pas sur tout ça, vous le savez, n'est-ce pas, depuis que le clair de lune, qui se leva, sous-entendu, autrefois sur l'auguste mont des aigles, s'est couché au bois des grues, n'est-ce pas, Tsuru no Hayashini. Alors, vous voyez encore l'allusion à ce. Je vous souvenez du poème que je vous avais donné la dernière fois, où l'on voyait la sixième heure, en quelque sorte. Et on voit encore la même idée ici. C'est une idée qui est très chère. Qui est très cher à Jien, n'est-ce pas ? Je vous donne ici deux de ses poèmes où vous avez exactement la même idée. Ware kikishi, washi no miyama no koto no ha wa, tsuru no hayashi no nochi ni koso chire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire donc que les paroles que j'ai entendues sur l'auguste montagne, sur l'auguste montagne des aigles, tsuru no hayashi ni koso, Hayashi no nochi ni koso chire, elles se sont dispersées après le bois des grues. C'est-à-dire, donc, vous voyez que le bois des grues, enfin, c'est peut-être inutile de le rappeler, mais c'est désigne le nirvana de Bouddha, n'est-ce pas ? Vous savez que lorsque le Bouddha est mort, les arbres shala soju no hana no iro, n'est-ce pas, comme dit le début du Heike Monogatari, les arbres shala qui étaient là ont vu leur feuillage blanchir brusquement. Et ça rappelait un vol de grues. Donc le bois des grues implique toujours le nirvana. Et vous avez de l'autre côté un autre poème de Jien qui montre bien le rôle de la lune ici. Washi no yama ideyuku tsuki no ato ni wa mata izubeki mina o kikuzo ureshiki. Donc après que la lune se fut couché à la montagne des aigles, n'est-ce pas, donc là où le lotus a été prêché, quelle joie, Zo Ureshiki, quelle joie d'entendre le nom du Bouddha qui va apparaître. Vous voyez donc que la lune, c'est Shakyamuni. Donc il n'y a pas ici. Donc on est tout à fait dans le même esprit de Jien. Ce poème fait écho à de nombreux autres poèmes de Jien. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez encore l'ambiguïté du bois des grues, c'est-à-dire du nirvana. Ça désigne à la fois la dernière période de l'enseignement du Bouddha, mais ici, comme vous allez le voir tout de suite, l'allusion est extrêmement claire à la période de Mappo, n'est-ce pas ? C'est-à-dire du déclin de la fin de la loi. Donc, depuis que le clair de lune qui se leva autrefois sur l'auguste mont des aigles s'est couché dans le bois des grues, si l'on fait le compte des années qui ont passé, ce sont 2000 ans qui se sont écoulés, je n'insiste pas, n'est-ce pas ? les deux premiers aspects de la loi, la vraie loi et la loi de semblance, et d'être entré dans les 500 années de la dernière période nous comble de tristesse. voyez que Nochi no Itsutsu no Momotose ni Ininikeru koso Kanashikere. Alors, vous voyez d'une part qu'il donne, il y a bien cette idée de l'entrée dans la période de la fin de la loi, où la loi n'est plus, normalement, vous savez, c'est la loi n'est plus transmise que par les sutras, mais elle n'est plus appliquée, elle n'est plus mise en pratique. Et en même temps, il donne ici une durée tout à fait restreinte à cette dernière période, alors que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous savez, elle dure en réalité, si l'on s'en tient en bouddhisme, des millions d'années, mais lui, il l'a réduit à 500 ans. Donc, nous reconnaissons sans peine l'allusion évidente aux trois périodes, les Sanji, donc, dont l'entrée dans la troisième pesait tant sur les consciences religieuses de la fin de Heian. Mais ici, cette dimension prend un sens particulier puisque c'est un poème consacré au mont Hiei dont la raison d'être est le lotus et sa pratique pleine. Et vous vous souvenez de la dernière fois dans notre évocation très rapide de la carrière de Jien, il y a ce séjour très important où Ebumidera, où, nous dit le texte, il a fait Myokyo Tsuri Seri, enfin bon, c'est-à-dire, il a pénétré Myokyo dans le sutra sublime, qui est le sutra du lotus, il a pénétré Ri pour en tirer des bienfaits. C'est-à-dire qu'il s'est livré à une pratique extrêmement concrète de récitation du sutra du lotus qui vise à des pouvoirs réels. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'est le Mappo, n'est-ce pas ? Puisque, vous vous souvenez, dans la période du sutra, dans la période de la fin, il n'y a plus que les sutras, il n'y a plus la pratique, Gyo, et il n'y a plus Sho, l'attestation, la réalisation de la pratique. Donc c'est donc une mise en situation chronologique, et voici la suite, n'est-ce pas ? Hélas, ô combien ! Tandis que se dissipait l'écume de l'eau de la loi, Nori no Mizu no Awa, qui était Yuku. C'est en cette époque que je naquis, et en elle, Sore ni Kokoro o Sumashitezo, c'est en elle que je me suis purifié l'esprit, Waga Yamakawa ni Shizumi Yuku, plongeant alors là, il y a une ambiguïté de texte. Il fait à la fois allusion aux pratiques religieuses qu'il a faites, n'est-ce pas ? Plongeant dans les torrents de notre montagne, c'est-à-dire du mont Hiei, et en même temps l'eau de la loi, Mizu no Awa, l'équipe de l'eau de la loi, disparaît, Shizumu, en même temps que les torrents. Donc c'est à la fois une allusion aux pratiques et à la disparition de la loi. Et ensuite, donc, en tout cas, c'est la situation du mont Hiei. Et voici ce qu'il dit ensuite. Kokoro arasou nori no shi. Alors, vous voyez qu'il y a un terme chinois ici, « chi », n'est-ce pas ? Donc, les maîtres de la loi, de la loi bouddhique, qui rivalisent en leur cœur, « wademo, wademo to », en disant « moi d'abord », provoquant des désordres aussi pénibles que les filaments emmêlés des saules verdoyants. Je suis obligé de traduire littéralement, n'est-ce pas ? « Aoyagi no ito tokoro seku », le « ito » qui veut dire « trait », tout simplement, mais ça veut dire aussi le filament, donc Aoyagi soutient l'adverbe trait, n'est-ce pas ? Donc, c'est la phrase va continuer, donc, cette fois l'allusion est ici très nette, vous voyez que tout à l'heure il faisait allusion aux pratiques que lui-même et d'autres ont faites sur le mont Hiei, et maintenant, Norinoshi, c'est-à-dire les Hoshi, les maîtres de loi, vous vous souvenez que les maîtres de loi, c'est un terme honorifique que l'on donne aux ascètes pratiquants, un peu synonyme du hijiri que nous allons voir tout à l'heure. Ce sont des gens qui... Saigyo Hoshi, n'est-ce pas ? Ce sont des gens qui n'ont pas de grade spécifique dans la hiérarchie, enfin, en tout cas, tel qu'on les présente dans la hiérarchie bouddhique, mais ils ont un grade, ils ont une appellation honorifique qui reflète leur statut un peu marginal. Il fait allusion ici aux ermites. Donc, alors, Dans leur désir de compétition, Kokoro Arasou, n'est-ce pas, ils ont Midare Tekite, ils ont provoqué le trouble. Midaru, c'est vraiment le trouble politique aussi, enfin, le trouble politique et administratif dans le mont Hiei. Donc cette fois, c'est vraiment une claire allusion au désordre qui frappe la communauté monastique. Et en particulier, bien sûr, vous vous souvenez que vous avez vu dans notre petite présentation de la vie de Jien, qu'il a été 4 fois Zasu, n'est-ce pas, patriarche du Tendai, souvent pour des périodes extrêmement courtes, de 6 mois, 1 an, et il s'en démet de ses fonctions sans qu'on sache exactement pourquoi. On voit ici que j'avais fait allusion la dernière fois à la situation politique de son frère, de son frère aîné, Kanezane, n'est-ce pas, qui influe bien sûr sur la situation de Jien, mais ici il attribue cela vraiment à des péripéties internes, des désordres internes à la loi, au mont Hiei. Donc, la phrase continue. « Tandis que les fleurs du printemps et les feuilles d'érable rougies de l'automne se sont dispersées. » Et ici, vous avez Miyamabe. Alors, Miyamabe, c'est le profond des montagnes, c'est aussi le mont Mi, écrit avec le honorifique, c'est le mont Hiei, n'est-ce pas ? Michi ni Madoite. Donc, « errant dans le sentier au flanc du mont profond, où sur les ramilles ne subsistent plus de traces, Kozue Atonaki, ne subsiste plus de traces. Ainsi je passe, mais il ne sert à rien d'être seul à se préoccuper de la situation. Kokoro Todomuru ni Kaimo Naki, Nagisa, n'est-ce pas ? Donc, je passe sur le jeu de mots. Naki, ce sont les deux premières syllabes de Nagisa qui veut dire le rivage. Donc, Kaimo Naki. C'est à la fois la fin de la première phrase et le début de la phrase qui va suivre. Donc, il ne sert à rien d'être seul à se préoccuper de la situation. Jien, comme il arrive souvent chez les moines japonais, se présente ici comme le seul à être vraiment préoccupé de l'avenir du mont Hiei. Et il décrit son propre désarroi, donc, face à cette dissension interne. Et ce qui est intéressant pour ceux qui connaissent le sutra du lotus, n'est-ce pas, c'est que toute cette phraséologie se retrouve, par exemple, dans le sutra du lotus, c'est le désarroi de Shariputra. Vous voyez, je gère parmi les monts et les vallées, je résidant parmi les monts et les vallées, ou bien au pied des arbres, soit marchant, soit déambulant, je me fais ces réflexions. Et c'est bien ici ce que nous avons, c'est ici tout à fait ce que nous avons ici, n'est-ce pas ? Et vous voyez par exemple, je me fais ces réflexions à la fin, Joshi Yuizeji, n'est-ce pas ? Tsuneni Konokoto Shi Yuisu, c'est exactement la transcription de Todomuru ni Kai. Kokoro Todomuru, n'est-ce pas ? Je pose mon esprit, je pose ma pensée sur ces choses tout seul, mais sans aucun succès. Bon, là, je voulais simplement vous faire remarquer qu'un moine Tendai postérieur à Jien, contemporain quasiment de Son Yen, prend presque la même phrase pour décrire le... Pour décrire cette fois un poème d'espoir, mais puisque il y a des Kozueni zo komoru hanamo koyomo, n'est-ce pas, hanamo momijimo, n'est-ce pas, nous avons ici les fleurs et les fleurs d'érable Edanizo komodo, n'est-ce pas, bourgeonne sur les branches. Donc c'est une phraseologie qui va aussi faire date. Alors, l'absence de bourgeons sur les ramilles suggère que la tradition orthodoxe du Tendai est pour lui interrompue et qu'il est le seul à s'en soucier. Et le jeu de mots sur Kai Naki et Nagisa, donc, le mène des flancs de la montagne à l'autre pôle. de l'axe religieux du Tendai, de l'axe géographique religieux du Tendai, qui sont les rives du lac Biwa, en la province d'Ōmi, et à la plage de Shiga, Shiga no Ura. Alors, donc il était sur la montagne, et maintenant nous voyons en la plage de Shiga, où elle a fait descendre son émanation, bien que je m'en fusse remis à la grâce de la divinité de Hiyoshi, bien peu profond, hélas, est le courant de la rivière où les vœux se remplissent. Alors, ce passage est un peu complexe, mais c'est là, d'abord, comme vous le voyez, c'est la plus pure expression de la pensée du Honji Suijaku, c'est-à-dire la base que sont les Bouddhas et les Bodhisattvas et les traces descendues, Ato o Taresi, n'est-ce pas, les traces descendues que sont les divinités japonaises, les Kamigami, là c'est tout à fait. Et ces divinités sont descendues sur la plage de Shiga, donc sur les rives du lac Biwa. Et bien évidemment, c'est une allusion au Hiyoshi no Ya, n'est-ce pas? C'est une exclamation ici. Hiyoshi no Ya, kami no migumi, no megumi o, c'est-à-dire la grâce du dieu de Hiyoshi. C'est-à-dire le Sanno, le dieu de Sanno Gongen, l'avatar du dieu de la montagne, dont la base originelle est le Bouddha Shakyamuni. Donc c'est une divinité cette fois nous sommes dans le domaine du Shinto, mais qui soutient géographiquement et dans la pratique le mont Hiye, n'est-ce pas, et l'école Tendai. Donc vous voyez que dans cette période de désarroi, il s'en remet aussi à la force de la divinité de Hiyoshi. Malheureusement, pour comprendre aussi ce poème, il faut faire attention au fait. Alors, je vais être obligé de. Je ne vais pas vous citer. Je vous les donne simplement très rapidement ici. Il faut faire attention que chez Jien, le Shiga no Ura, la plage de Shiga, comme vous le savez, à l'époque, dans la poésie, les sonores et les sourdes, les consonnes sonores et sourdes s'alternent et on peut tenir compte de leur sonorisation ou non pour le sens. C'est aussi Shika no Ura. Et Shika, comme vous le savez, ce sont les cervidés, les daims, etc. Or, vous le savez encore plus du deuxième cours, n'est-ce pas, que vous rappellent les daims, les cervidés, tout ce que vous voulez, sauf les gazelles, puisqu'il n'y en a pas au Japon, c'est la période du petit véhicule, n'est-ce pas, Shika no Sono, la période du jardin des cerfs, où le Bouddha Shakyamuni a prêché les premiers rayons, si vous voulez, de la roue du Dharma. Et je vous donne ici un autre poème de Jien qui dit bien la même chose, n'est-ce pas? Ce poème, je l'avais traduit de cette façon: les fleurs en leur éclat, telles que nous les vîmes à Shiga ou à la plage des cerfs, ne changeront goutte Tsuyumo, n'est-ce pas, sur la sente du mont des aigles. Voyez donc, et c'est un poème qui est donné sur un sutra, sur un passage du sutra du lotus, Nanjira no okonau tokoro wa kore bosatsu do nari, ce que vous pratiquez, vous les auditeurs, c'est-à-dire les gens du petit véhicule, c'est en réalité la voix des bodhisattvas. Donc même lorsque l'on est en dehors, lorsque l'on redescend dans le monde et lorsque l'on va aussi dans le monde phénoménal qui est la dimension d'action des divinités Shinto et de Hiyoshi, eh bien nous sommes encore, malgré tout, dans cet esprit. Seulement, comme il est dit ici, « Aware negai o mitsukawa no nagare mo asaku » je vous passe sur les jeux de mots, n'est-ce pas, mais hélas, c'est le torrent où devaient se remplir les vœux, c'est-à-dire la pratique qui devait mener les gens du petit véhicule au grand véhicule, à Sashi, ce torrent est de niveau bien peu profond et tout cela ne marche pas. Il va ensuite faire une allusion à la pratique de, euh, à, à la pratique qui se détériore sur le mont Hiei même, mine no shijiri no sumikasae, et même les demeures des ascètes sur les pics, et vous, encore une fois, allusion à, aux pratiques ascétiques donc de la, du mont Hiei, dont Jien fut partie prenante, koke no, no shita ni zo mumore yuku, il faut mieux lire ici, mumore yuku, se trouvent ensevelies, sont couvertes de mousse, plus personne ne les habite. Donc, la corporation des Hijiri, n'est-ce pas, qui est un synonyme un peu plus marqué de Hoshi, c'est-à-dire les ermites qui ont des pouvoirs la plupart du temps. Hijiri qui désigne le saint, mais le saint presque thaumaturge, eh bien, il n'y en a plus sur le mont Hiei et l'efficace de la montagne s'en ressent. Donc, il déplore le fait que les pratiquants solitaires aient disparu de la montagne, probablement tous réfugiés dans le confort de la cour impériale, shogunale ou des résidences aristocratiques. Alors, vous avez ensuite, dans les deux vers suivants, « Uchihara ubeki shitomogana, puisse venir celui qui purifiera tout cela ». Vous voyez que c'est un appel à un sauveur, mais est-il politique ou religieux? On ne le sait pas exactement. Le poème « Ana unohana no yono nakaya », hélas, en ce monde sinistre et unohana, alors malheureusement, il n'y a pas de bonne traduction qui passe facilement pour le nom de cette fleur, n'est-ce pas, qu'on traduit par la Deutzia, D-E-U-T-Z-I-A, qui est une fleur, je n'ai pas eu le temps nous n'avons pas le temps de voir des photos qui vous l'illustreraient, mais c'est une allusion à d'autres oui, je vous donne ce poème, vous voyez, un poème du Kokinshu, où vous avez qu'on pourrait traduire le coucou sans conscience de soi, aura traversé de son champ ce monde sinistre, éphémère comme la doxia. Donc, unohana no ukiyo no nakano. Donc, vous voyez que le Kokinshu vous donne à peu près le modèle de cette phrase. Nous n'avons pas ukiyo, là, nous avons simplement yo no naka, mais unohana, le u de unohana, rappelle le u de ukiyo. Voilà, c'est comme par assonance que ça marche ici. Et il continue. Vains sont les songes du printemps, et dès que l'on pense aux ramilles de l'automne, vains sont les songes du printemps, et dès que l'on pense aux ramilles de l'automne, qui pourrait se rendre aux neiges de l'hiver? Vous voyez que la unohana est une fleur de l'été, donc il reste encore trois saisons à énumérer. Donc l'été a été pris par le sinistre éphémère, le printemps et ses aspirations, les rêves du printemps. Et ce mot de rêve est intéressant, nous le reverrons la semaine prochaine, ont montré leur vanité, et les ramilles dénudées de l'automne, vous voyez que, contrairement à tout à l'heure, c'est les ramilles dénudées de l'automne qui sont stériles, donc n'engagent pas à aller admirer les neiges. Ces propositions décrivent l'état de désespoir face à l'avenir, malgré l'appel à la venue d'un sauveur. Kakute Yaimawa. Alors même que je m'inquiétais, to omou karani, alors même que je m'inquiétais à l'idée, atotaem, donc imawa atotaem, à l'idée qu'ainsi de nos jours la trace, c'est-à-dire la tradition, allait disparaître, m'en remettant précisément à ce souci qui ne quittait pas mes pensées, au point qu'elles parussent étranges en leur complexité, je ne peux me retenir de vous expliquer le kure hatori ayashiki made no wanga omoi, n'est-ce pas, le ayashiki, donc veut dire étrange, ayashiki made no wanga omoi, mes pensées étaient ayashiki made, allaient jusqu'à la bizarrerie tant j'en étais obsédé, et kure hatori, vous avez le hatori, ce que vous avez dans le nom de famille hatori, n'est-ce pas, c'est le tisserand, kure de Chine du Sud, du pays de Wu, et aya, c'est le motif, ce sont les tissus décorés des tisserands, n'est-ce pas ? Vous voyez, le nom Ayashi est un jeu de mots, et Ayashi est découpé en Aya et Shi, et Aya implique le métier à tisser. Bon, c'est, Vous voyez en tout cas le style très raffiné de ce poème. Alors, évidemment, est-ce que le Wanga Omoi désigne... C'est certainement Jien tout seul, puisque tout à l'heure, il disait « Shitori », mais ça peut être aussi un collectif, n'est-ce pas ? Il y a peut-être plusieurs personnes à penser comme lui. Mais en tout cas, il est dans une mauvaise passe. Et nous avons ici une sorte de pivot dans la narration. Nao Saritomoto, n'est-ce pas ? Saritomoto omoitsusu. Et en pensant Nao Saritomo, et cependant, et malgré tout, c'est-à-dire il y a quelque chose à faire. C'est une sorte, vraiment, pas de retournement de la pensée, parce que vous, mais il quitte ce monde du désarroi et s'en va, change d'univers. Shibashi Miyako ni Yasuraite. Ayant quelque temps séjourné à la capitale. Alors, Shiite, n'est-ce pas ? Shiite Kokoro wo Tsukubayama. Alors là aussi, il faudra. Alors, je me retrouvais bien contre moi, bien malgré moi, ému des couleurs de la fleur de l'auguste loi subsistant encore. Nokoru. Minori no hana no iro ni shite kokoro o tsuku. Je suis frappé du reste de la splendeur du sutra du lotus que je retrouve à la capitale. Alors Tsukubayama, comme vous le savez, le mont Tsukuba est l'un des monts célèbres du Japon. Il est divisé il comprend deux pics, un pic mâle et un pic femelle, ce qui implique donc une relation amoureuse qui implique des soupirs, et ce qui explique pourquoi Shigeki Nageki no Toshi o Tazune, des soupirs aussi nombreux. Et alors, donc, ayant quelque temps séjourné à la capitale, je me retrouvais bien malgré moi ému des couleurs de la fleur de l'auguste loi subsistant encore, et considérant ces années tragiques qui renouvellent les soupirs aussi nombreux que Komon Tsukuba. Alors, ces soupirs, à quoi sont-ils dus, n'est-ce pas ? Je vous donne un poème de Teika, mais nous n'avons pas de... Shizumu mukashi no tama o toi, suku kokoro o fukaku shite, tsutome yuku koso aware nare. Pris de pitié pour les mânes qui jadis furent engloutis dans les mauvaises voies. Et dans un profond désir de leur venir en aide, je m'évertuais à faire pour eux des rituels. Avec quelle émotion ! Et ça nous explique pourquoi il descend à la capitale du mont Hiei, n'est-ce pas ? C'est une claire référence à son activité liturgique. Stomu veut dire bien sûr le s'évertuer, mais c'est aussi otstome qui veut dire aussi le rite, n'est-ce pas ? Le rite exécuté par un moine. Et c'est une allusion au fait que Jien était descendu à la capitale pour exécuter des cérémonies pour apaiser les esprits des guerriers morts longtemps auparavant, enfin presque 50 ans auparavant, lors des troubles de l'ère Hōgen, n'est-ce pas ? Et c'est attesté, et les commentateurs font bien le lien entre les deux. Le fait qu'il aille à la cour de Gotoba, et c'est pour pratiquer cette cérémonie. Et vous voyez que brusquement, la crise spirituelle qu'il évoquait tout à l'heure prend une dimension politique où le sauveur, Haraobeki Shito Mogana, n'est-ce pas ? Le sauveur peut apparaître effectivement comme un empereur. C'est le second paragraphe ici. Et en pensant au règne de Monseigneur, je ne vais pas trop insister sur les allusions, elles sont trop nombreuses. Le temps passe plus vite que prévu. Et en pensant au règne de Monseigneur, pensée qui résonne en moi aussi fort que le son de la cloche du crépuscule, et j'adopte l'idée des commentateurs, le tsurezure doit plutôt être lu tsukuzuku, n'est-ce pas? Donc, kane no tsuku et tsukuzuku to wa kimi no yo omou ni mo. C'est dans la splendeur, n'est-ce pas, nioite, la splendeur des couleurs de la fleur du lotus de la loi, que je laissais reposer pour un temps ma pensée, dans le désir d'être le pont qui fera traverser les êtres. C'est intéressant, le Yasumu, Shibashi Kokoro Yasumubeki, dans le Hojoki, n'est-ce pas, je vous donne cette phrase du Hojoki, vous avez pratiquement la même phrase, Shibashi mo kono mi o yadoshi, tamayura mo kokoro Yasumubeki. Pratiquement contemporain, n'est-ce pas, vous avez le Shibashi Kokoro Yasumubeki, laissant reposer, laissant demeurer. Tout à l'heure, nous avions Kokoro Todomuru, Todomu, ici nous avons Kokoro Yasumubeki. Donc ce passage continue le précédent, donc après son rituel pour les mânes et pour les âmes des guerriers disparus, et il semble faire allusion à la sympathie qu'il a trouvée dans l'entourage de l'empereur Gotoba, n'est-ce pas, Wanya kimi no miyo omo, en pensant au règne de mon seigneur, de mon souverain, de mon empereur, et qui lui donne donc l'espoir de pouvoir poursuivre l'œuvre salvifique fondée sur le lotus, et œuvre salvifique qui est lié, qui a comme précédent son action liturgique pour les mânes des victimes. Et voici la fin du poème. Et à la fin, Tsuini, cette fois nous avions les Shibashi, mais maintenant Tsuini, et qui finit par un nagamen, ce n'est pas une forme qu'on pourrait expliquer comme le futur. Donc, il y a de nombreux jeux de mots. Tsuni wa ikani asukagawa asu yori no chiwa, n'est-ce pas ? Wangatachishi soma no tatsugi no hibiki yori. Vous voyez que Wangatachishi soma, c'est Wangatatsu soma que nous avons trouvé dans son poème du Hyakuni Ishu. Le fleuve d'Asuka, donc la rivière de Nara, c'est évidemment le jeu de mots sur Asuka. Sera-ce demain, qui est repris pour ceux qui ne comprennent pas, qui est repris immédiatement après par Asu Yori. Donc, et l'interrogatif qui le ikani du début en réalité couvre toute la phrase et les reprises avec ikade nagamen. Donc c'est une phrase assez complexe, et devant c'est ce que permet le nagauta, le choka, n'est-ce pas, vous pouvez avoir des phrases beaucoup plus complexes que dans les waka. Donc, mine no asagiri, harete no kite, kumora no miyo o, ikade nagamen. Vous voyez encore miyo ici qui fait kimi no yo tout à l'heure. Nous sommes dans la pensée impériale. Et à la fin, donc, comment à l'avenir, rivière d'Asuka, désormais. Alors, oui, excusez-moi, il faut faire attention. Il y a un jeu de mots encore plus caché que d'habitude. Comme vous le savez, vous avez des formes d'élision dans la pensée, dans la poésie japonaise. C'est-à-dire qu'on est habitué à découper les segments de vers au sécateur, mais en réalité, ils peuvent s'emboîter les uns dans les autres. Ce qui est très bizarre ici, c'est que vous avez Asukagawa et ensuite Asuyori. Pourquoi une répétition aussi rapprochée ? Alors, c'est quelque chose qui semble n'avoir pas été vu par les commentateurs, mais il me semble évident. Vous avez Asukagawa et Kawa-Asu. Et là, c'est très normalement Kawa-Asu se réservant Kawasu et Kawasu, qui veut dire donc échanger, faire des échanges. Kawasu yori nochiwa, donc après nos échanges avec l'empereur. Kawasu yori nochiwa. Donc, alors, à la fin, donc, parce que tsuini, n'est-ce pas ? Et ensuite, vous avez le yori nochi. Vous voyez, il insiste de façon très, très poussée sur, et en répétant les ikade, etc. Cette phrase est très lourde. Donc, à la fin, donc, comment à l'avenir, Désormais, au terme de cet échange, Asukagawa-se, dans les échos des arbres dressés du temple que nous avons édifié, donc le mont Hiei, les brouillards du matin s'étant dissipés dans le ciel clair, oui, comment regarderons-nous l'auguste règne en sa limpidité ? C'est à la fois le mont Hiei qui se dégage des nuages des désordres internes, et en même temps, c'est le nouveau règne, Miyo, de l'empereur Gotoba, que nous pouvons contempler. Alors vous voyez qu'il y a ici vraiment une sorte de collusion entre l'empereur et le moine pour refaire une nouvelle unité où le mont Hiei reprendrait toute sa place aux côtés d'un empire renouvelé. N'oubliez pas que, évidemment, Jien ne le sait pas, mais nous sommes à l'époque de Kamakura, c'est-à-dire que c'est le shogunat. Et vous savez que le coup d'État avorté, qui sera bien plus tard de Gotoba no In, qui le mènera à l'exil en 1221, n'était que la résultante de cette activité qui commence à cette époque. Là, nous l'avons vu, pour restaurer le trône impérial. Alors, je vous redis très rapidement l'ensemble de ce poème pour que vous en ayez une meilleure idée, en simplifiant quelques petites choses. Depuis que le clair de lune, qui se leva autrefois sur l'auguste mont des aigles, s'est couché au bois des grues, si l'on fait le compte des années, ce sont 2000 ans qui se sont écoulés, et d'être entré dans les 500 années de la dernière période nous comble de tristesse. Hélas, ô combien, tandis que se dissipait l'écume de la loi, c'est en cette époque que je naquis, et en elle je me purifie l'esprit, plongeant dans les torrents de notre montagne. Double sens. Hein. Tandis que les fleurs du printemps et les feuilles d'érable rougies de l'automne se sont dispersées, errant dans le sentier au flanc de l'auguste montagne du mont Hiei, où sur les ramilles ne subsiste plus de traces, ainsi je passe. Mais il ne sert à rien d'être seul à se préoccuper. En la plage de Shiga, où elle a fait descendre son émanation, bien que je m'en fusse remis à la grâce de la divinité de Hiyoshi. Bien peu profond, hélas, est le courant de la rivière où les vœux se remplissent. Les demeures même des ascètes sur les pics vont s'enterrant sous la mousse. Puisse venir celui qui purifiera tout cela. Hélas, en ce monde sinistre et éphémère, vains sont les songes du printemps. Et dès que l'on pense aux ramilles de l'automne, qui pourrait se rendre aux neiges de l'hiver? Alors même que je m'inquiétais à l'idée qu'ainsi de nos jours la tradition allait disparaître, me remettant précisément à ce souci qui ne quittait pas mes pensées au point qu'elles parussent étranges à leur complexité, en pensant que malgré tout, il y avait quelque chose à faire. Ayant quelque temps séjourné à la capitale, je me retrouvais, bien malgré moi, ému des couleurs de la fleur de la loi, y subsistant encore. Et considérant ces années tragiques qui renouvellent les soupirs aussi nombreux qu'au monde Tsukuba, pris de pitié pour les mânes qui jadis furent engloutis dans les mauvaises voies, et dans un profond désir de leur venir en aide, je m'évertuais à faire pour eux des rituels, et avec quelle émotion. Et en pensant au règne de mon Seigneur, pensée qui résonne en moi aussi fort que le son de la cloche du crépuscule, c'est dans la splendeur des couleurs de la fleur du lotus de l'oie que je laissais reposer pour un temps ma pensée, dans le désir d'être le pont qui fera traverser les êtres. Et à la fin, donc, comment à l'avenir ? Désormais, au terme de cet échange, dans les échos des arbres dressés du temple que nous avons édifié, les brouillards du matin s'étant dissipés dans le ciel clair, oui, comment regarderons-nous l'auguste règne en sa limpidité ? Alors, comme il se doit, ce poème long est conclu par un répond, Hanka, qui est de Teika lui-même, n'est-ce pas ? Et c'est un contrepoint à ce poème qui le résume et l'approfondit. Ce contrepoint est paradoxalement assez pessimiste. Mais comme vous le voyez, il reprend un mot du poème, un mot très précis, ce qui nous fait comprendre que ce mot est vraiment le pivot, comme je vous l'ai signalé. Il commence par le salitomo, n'est-ce pas ? Le salitomo de tout à l'heure, n'est-ce pas ? Et cependant, en pensant que malgré tout, il y avait quelque chose à faire, n'est-ce pas ? Et Teika a bien compris ce qu'il y avait derrière ce sens. Saritomo to omu kokoro no fukaki kana. Ah, quelle profondeur, n'est-ce pas, dans cette pensée. Saritomo to omu, je ne peux le traduire ici par que comme cette pensée qui veut s'opposer, qui refuse la décadence. Mais la fin est plus pessimiste, le Shimonoku. Taete taeyuku Yamakawa no mizu. Qui veut s'opposer, il faudrait dire face, peut-être pour atténuer l'opposition, mais face à l'eau de ce torrent, taeté, là c'est le taeté de, oui, encore un genou, mais ça fait quand même la répétition du verbe tae, taeyu qui veut dire s'interrompre, n'est-ce pas? Et le taeté veut dire absolument, complètement. Face à l'eau de ce torrent qui va s'épuisant complètement. Et donc, Teika résume ce long poème de 105 vers en un courageux sursaut d'un moine seul qui lutte contre la tradition qui va dépérissant. Donc, c'est quelque chose qui est à la fois d'admiration et d'un certain pessimisme. Alors, ce texte exceptionnel par la forme l'est certes moins par le fond, mais il nous révèle ce qui apparaît comme une constante préoccupation de Jien tout au long de sa carrière de moine, de poète et d'historien. Prélat du Tendai, et vous voyez le poème qui a été retenu dans le Hyakuninishu, n'est-ce pas ? Moi qui suis indigne de protéger tant d'êtres et le peuple, Tami, n'est-ce pas ? De mon vêtement noir. Donc, c'est le sort de sa communauté qui lui importe avant tout. Et qu'il essaye de renouer avec l'empereur, avec un empereur, le Kawasu. Un empereur certes retiré, mais dont on peut penser qu'à l'époque où nous sommes, perçait déjà ses vastes ambitions politiques, n'est-ce pas ? Napoléon perçait sous Bonaparte. Et cela va bien au-delà de la gloriole personnelle. Ce n'est pas, il s'est démis de ses fonctions, on ne sait pas exactement dans quelles circonstances, mais il s'en est démis volontairement par indignation. Il ne voulait pas discuter avec les forces d'opposition qui, en réalité, étaient soutenues par d'autres mouvements, d'autres forces de la cour. Nous reviendrons là-dessus dans la partie de JN Historien. Alors, on pourrait s'étonner qu'il veuille aller ainsi à l'encontre de l'atmosphère de Mappo. Le Mappo, la fin de la loi, c'est le fait que, justement, les sutras ne valent plus rien. Toutes les pratiques ne servent plus. Et vous voyez que le fait qu'il ait parlé des cabanes abandonnées, des ermitages abandonnés des pratiquants, reflète cela. Il n'y a plus de gyo, de okonao, il n'y a plus de pratiques, et il n'y a plus personne pour attester les pratiques. L'amidisme imprègne encore cette époque, mais ici, justement, il n'est pas question d'amida, il est question de l'entrée dans le Mappo, mais on voit bien qu'il résiste au Mappo, ici. C'est-à-dire qu'il veut restaurer la foi et la pratique du Sutra du Lotus. C'est en ce sens que Teika dit aussi que c'est un combat, un beau combat désespéré, puisque le Taeyuku Yamakawa no Mizu, c'est bien sûr la possibilité de réaliser les pratiques du lotus, mais parce que nous sommes dans la période de la loi, de la fin de la loi, les 500 années qui vont passer, au moins selon JN, ne vont servir de rien. C'est pour cela qu'il parle ici d'un combat désespéré. Mais ce qui est très intéressant, c'est l'idée pour JN que renouer avec le pouvoir impérial, puisque, en fin de compte, et là, on voit bien comment la pensée du Mappo est adaptée à la politique de l'époque, la dégénérescence de la loi fait aussi la dégénérescence politique et le fait que ce ne soit plus l'empereur qui soit au pouvoir, mais un vulgaire shogun, n'est-ce pas ? Donc, nous avons vraiment ici un très bel exemple dans ce poème, certes très rhétorique, mais vous voyez tout ce qu'il y a de personnel derrière, un très bel exemple de contradiction, comme diraient les Chinois, entre cette pensée du Mapo et le désir ecclésiastique de Jien. Tout cela, alors c'est un poème tout à fait programmatique de ce côté-là, il est en 1205, n'est-ce pas, il a encore une vingtaine d'années à vivre, 20 années qui vont être consacrées à repenser, à réfléchir à la situation historique et religieuse du Japon, dont nous verrons quelques conséquences la prochaine fois. Bon, cette fois, j'ai réussi à être à l'heure, et je vous remercie de votre attention.